France Inter. Les admirations littéraires de Laurent Stocker. Alors pour cette deuxième émission, j'ai choisi Un rire salvateur. Un texte drôle, je crois. Gargantua de Rabelais. Alors, c'est pas par nostalgie d'une vieille littérature, ni pour cocher le nom d'un auteur au programme, mais c'est parce qu'il y a dans ce livre une force primitive. Je trouve, il y a une joie de penser, de parler librement, que j'aimerais retrouver aujourd'hui dans un monde qui parle beaucoup, mais qui pense peut-être un peu moins. C'est un géant, Gargantua. C'est un géant qu'on croit grotesque, glouton, énorme. Il n'est pas seulement un corps, c'est un esprit en expansion. C'est un enfant qui découvre le monde. Rabelais raconte une éducation, évidemment, comment un homme se construit, apprend à voir, à comprendre et surtout à rire. C'est une initiation à la liberté. Et à travers les excès, les repas, les bains, les batailles absurdes, il y a toujours cette question, qu'est-ce que cela veut dire grandir ? Alors, ce qui me plaît beaucoup chez Rabelais, parce que moi je suis quelqu'un, vous entendrez dans la troisième émission que je peux avoir un côté sombre avec Aragon, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup rire. Et Rabelais rit de tout, du pouvoir, de la religion, de la bêtise. Il rit avec férocité, mais jamais avec mépris. C'est ça la différence entre le clown et le bouffon. Le clown rit de lui-même, le bouffon rit des autres. Rabelais, je crois, il rit de lui-même. Il a un rire qui lave, qui nettoie les dogmes, qui nettoie les certitudes. Il redonne au lecteur une capacité de respirer. Et dans une époque où l'humour devient suspect, où chaque mot doit être filtré, un rire libre, immense, insoumis, me paraît aujourd'hui plus nécessaire que jamais. Lire Gargantua, c'est aussi plonger dans une langue vivante, foisonnante, délirante, qui invente à chaque ligne. Alors évidemment, avec la complicité de Yaël Eladad, aujourd'hui, on va le lire dans une sorte de traduction. Parce que si on le lit en vieux français, on en fera l'essai. Vous verrez que vous ne comprendrez pas grand-chose. Donc on va le lire dans une langue moderne. Une langue où le français respire encore son latin, où la sagesse se cache derrière la farce. C'est un texte plein de vent, de vin, de lumière, en disant la chair du monde, le goût des mots, l'appétit de savoir et de vivre. Et c'est tout ça qui me bouleverse. Il y a aussi une autre dimension. Derrière la folie, il y a une pensée humaniste. Rabelais, médecin et moine, sait ce qu'est un corps et il sait ce qu'est une âme. Son rire n'est pas gratuit. Il veut guérir l'homme de la peur et de l'ignorance. Et quand il écrit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme », il place le savoir au service du cœur et l'intelligence au service de la vie. Ça me fait penser à une autre phrase de Molière qui dit « Un sot qui ne dit mot » ne se distingue pas d'un savant qui se tait. 5 siècles plus tard, tout ce qu'il dénonce, Rabelais, la cupidité, la bêtise, les faux savants, les dogmes, comme Molière l'a fait après d'ailleurs, nous entoure à nouveau. Mais Rabelais n'écrit pas contre le monde, il écrit pour la vie. Et donc, Gargantua n'est pas vraiment un conte pour enfants, mais c'est imagé. C'est un miroir de notre propre croissance. Grandir, pour Rabelais, c'est pas accumuler du savoir, c'est apprendre à être libre, à rire, à douter, à aimer, à penser par soi-même et à faire de sa vie une œuvre vivante. Alors, lire Gargantua aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est de retrouver une énergie que la modernité a perdue, une confiance dans le verbe, une tendresse pour la folie, une sagesse qui passe par le rire. C'est, quelque part à sa manière, un acte de résistance. Alors oui, j'ai choisi Gargantua parce que même sous ses aspects énormes, il me rend plus léger, plus lucide, je crois, et peut-être un peu plus libre. François Rabelais, en fait, il est également connu sous 2 anagrammes de son nom, Alcofribas Nazier ou bien Séraphin Calobarcy. Il s'était choisi 2 anagrammes parce que les textes ont été évidemment interdits, circulés sous le manteau, ça a été toute une histoire. Mais apparemment, ça s'est vendu plus que la Bible à cette époque-là, ce qui raconte quelque chose. Il est né près de Chinon en 1483 ou 1494 selon les sources et il est mort à Paris le 9 avril 1553. Donc c'est un écrivain français et humaniste de la Renaissance.
Yeah. Les admirations littéraires, Laurence Tucker, sur France Inter.
Alors on va commencer par le chapitre 6. C'est la naissance de Gargantua, c'est un chapitre qui inaugure l'ex-érablésien dans toute sa splendeur. Il détourne l'acte le plus sacré, c'est-à-dire la naissance d'un individu, pour en faire un moment de démesure jubilatoire. La venue au monde de Gargantua devient comme une farce cosmique qui annonce la liberté du ton du livre. On entre dans un monde où les corps débordent, où rien n'est sacré et où l'humanité est célébrée dans toute son exubérance. Comment Gargantua naquit d'une façon bien étrange. Tandis qu'il tenait ses menus propos de beuverie, Gargamel commença à se sentir mal du bas. Alors Grand Gousier se leva de l'herbe et il la réconfortait gentiment, pensant que c'était le mal d'enfant, en lui disant que pour l'instant, elle était là étendue sur l'herbe des saules et que sous peu, elle aurait des pieds tout neufs. Que pour cela, il fallait qu'elle prenne courage nouveau pour la nouvelle arrivée de son poupon, même si la douleur la mettait quelque peu en fâcherie. Que toutefois celle-ci serait brève et que la joie qui lui succéderait bientôt lui enlèverait tout ce tracas, au point qu'il ne lui en resterait pas même la souvenance. « Vous avez le courage d'une brebis, disait-il. Délivrez-vous de celui-ci et faisons-en bientôt un autre. »
« Ah, dit-elle, vous en parlez bien à votre aise, vous autres hommes. Je m'y efforcerai bien par Dieu puisqu'il vous plaît, mais plût à Dieu que vous l'eussiez coupé. »
« Quoi ? » dit Grand Gousier.
« Ah, dit-elle, vous en avez de bonnes, vous me comprenez bien. »«
Mon membre ? » dit-il. « Pas le sang bleu. Si bon vous semble, faites apporter un couteau. »«
Ah, dit-elle, à Dieu ne plaise. Dieu me le pardonne. Je ne parle pas sérieusement. Ma parole n'enlevait rien et n'en rajoutait pas plus. Mais il est vrai que j'aurai beaucoup à faire aujourd'hui si Dieu ne m'aide. Et tout cela par la faute de votre membre et pour votre bon plaisir. »«
Courage, courage, dit-il. Ne vous souciez pas du reste et laissez faire la force de la nature. Je m'en vais boire encore quelques rasades. » Si cependant il vous survenait quelque mal, je me tiendrai tout prêt. Criez avec vos mains en porte-voix et j'accourrai vers vous. Peu de temps après, elle commença à soupirer, à se lamenter et à crier. Aussitôt vinrent de tous côtés des troupes de sages-femmes. La tâtant vers le bas, elles trouvèrent quelques lambeaux de peau d'assez mauvais goût et elles pensaient que c'était l'enfant. Mais c'était le fondement qui lui échappait, suite au relâchement de l'intestin que vous appelez le boyau culier, pour avoir trop mangé de tripes.
Alors, une affreuse vieille de la compagnie, qui avait la réputation d'être une grande guérisseuse, venue de Brise-Paille, près de Saint-Genoux, avant 60 ans, lui administra un astringent si extraordinaire que tous ses sphincters en furent oppressés et resserrés, au point que vous les auriez élargis à grand-peine avec les dents, ce qui est une chose bien horrible à penser, comme ce qui arriva au diable de la messe de Saint-Martin, qui dut allonger son parchemin à belles dents pour pouvoir retranscrire les cancans de deux commères.
Suite à cet inconvénient, furent relâchés vers le haut les cotylédons de la matrice, par lesquels l'enfant jaillit et entra dans la veine cave, puis gravissant par le diaphragme jusqu'au-dessus des épaules, où la dite veine se divise en deux, il prit son chemin à gauche et sortit de ce même côté par l'oreille.
Aussitôt qu'il fut né, il ne cria pas comme les autres enfants
« Mi, mi !»
mais d'une voix forte, il s'écriait
« À boire, à boire, à boire !»
comme s'il invitait tout le pays à boire, si bien qu'on l'entendit dans tout le pays de « abu » et de « boira ».
Je me doute que vous ne croyez pas vraiment à cette étrange naissance. Si vous n'y croyez pas, je ne m'en soucie guère, mais un homme de bien, un homme de bon sens, croit toujours ce qu'on lui dit et qu'il trouve écrit.
Cette naissance est-elle contraire à notre loi, à notre foi ? Va-t-elle contre la raison, contre la Sainte Écriture ? Pour ma part, je ne trouve rien d'écrit dans les Saintes Bibles qui s'y opposerait. Car si Dieu l'avait voulu, diriez-vous qu'il n'aurait pas pu le faire ? Ah, de grâce, ne vous emberlificotez jamais l'esprit avec ces vaines pensées, car je vous le dis, à Dieu, rien n'est impossible, et s'il le voulait, les femmes auraient dorénavant ainsi leurs enfants par l'oreille.
Bacchus ne fut-il pas engendré par la cuisse de Jupiter ? Roctaïade ne naquit-il pas du talon de sa mère ? Croque-mouche de la pantoufle de sa nourrice ? Minerve ne naquit-elle pas du cerveau de Jupiter par l'oreille ? Adonis, de l'écorce d'un arbre de myrrhe. Castor et Pollux, de la coquille d'un œuf pondu et couvé par Léda. Mais vous seriez bien davantage ébahi et étonné si je vous exposais là tout le chapitre de Pline, qui parle des enfantements étranges et contre nature. Et toutefois, je ne suis pas un menteur aussi invétéré que lui. Lisez le 7e livre de son histoire naturelle au chapitre 3, et ne m'en tarabustez plus la cervelle. Alors, la continuité, là c'est le chapitre 7, c'est le premier mot de Gargantua. Rabelais, il pose dès les premiers sons du héros la question du langage, qui est une question évidemment centrale. Que dit-on en arrivant au monde? Que révèle un premier mot? Rabelais en fait un gag énorme, mais derrière l'humour perce l'ironie sur l'éducation, sur les mots qu'on inculque peut-être trop tôt, et sur le poids des habitudes linguistiques dans la formation d'un esprit.
Comment on trouva un nom à Gargantua et comment il buvait au goulot?
Le bonhomme Grand Gousier, tandis qu'il buvait et riait de bon cœur avec les autres, entendit le cri extraordinaire que son fils avait poussé en entrant dans la lumière de ce monde, quand il braillait en demandant « à boire, à boire, à boire ». Dès lors, il dit « quel grand tu as », sous-entendu le gosier. Les assistants, entendant ces mots, dirent qu'assurément, il devait porter pour cela le nom de Gargantua, puisque telle avait été la première parole de son père à sa naissance, sur le modèle et selon l'exemple des anciens Hébreux. Celui-ci y consentit donc, ce qui plut bien fort à sa mère. Alors, pour l'apaiser, ils lui donnèrent à boire à tire-larigot, et il fut porté sur les fonds où il fut baptisé, comme le veut la coutume des bons chrétiens.
Et 17 973 vaches de Pontille et de Bray-et-Mont lui furent commandées pour l'allaiter au quotidien. Car il n'était pas possible dans tout le pays de trouver une nourrice qui suffise, étant donné la grande quantité de lait requise pour l'alimenter. Et ceci, bien que certains docteurs scotistes aient affirmé que sa mère l'avait allaitée et qu'elle pouvait traire de ses mamelles 1402 fûts et 9 pots de lait à chaque fois. Ce qui n'est pas vraisemblable. Cette proposition a d'ailleurs été déclarée mamellement scandaleuse et offensante pour les oreilles pieuses. Cela sentait de loin son hérésie.
Il fut maintenu en ce régime jusqu'à 1 an et 10 mois, moment auquel, par le conseil des médecins, on commença à le sortir. Et on lui fit une belle charrette à bœufs, inventée par Jean Daigneault, dans laquelle on le promenait par-ci, par-là, joyeusement. Et il faisait bon le voir, car il portait bonne trogne et avait presque 18 mentons. Et il ne criait que bien peu, mais il se conchait à toute heure, car il était merveilleusement flegmatique des fesses, tant de sa constitution naturelle que d'une disposition accidentelle qui lui était advenue pour avoir trop avalé de purée de septembre. Et il n'en avalait jamais une goutte sans raison. Car s'il advenait qu'il fût dépité, courroucé, fâché ou attristé, s'il trépignait, s'il pleurait, s'il criait, en lui apportant à boire, on le rassérénait et il redevenait aussitôt calme et joyeux.
Une de ses gouvernantes m'a dit, jurant par sa foi que cela lui était très coutumier, qu'au seul son des pintes et flacons, il entrait en extase comme s'il goûtait les joies du paradis. De sorte que, considérant cette constitution divine pour le réjouir au matin, elle faisait devant lui sonner des verres avec un couteau, ou des carafes avec leurs bouchons, ou des pintes avec leurs couvercles. À ce son, il s'égayait et tressaillait et se berçait lui-même en dodelinant de la tête, en pianotant des doigts et en baritonnant du cul.
Alors dans le chapitre qui suit, le chapitre 8, c'est comme si on parlait de nourrir un enfant sous la satire. C'est des mots qu'il faut manger quelque part. Moi, ça m'intéresse toujours le rapport entre la nourriture qu'elle soit spirituelle, intellectuelle, et la nourriture concrète. Je pense toujours à cette phrase de Rabelais que je trouve extraordinaire, en parlant de Gargantua dans un autre chapitre. « Il étudiait une méchante demi-heure, mais son esprit était déjà à la cuisine. » Comment on vêtit Gargantua?
Alors qu'il était en cet âge, son père ordonna qu'on lui fît des habits aux couleurs de sa livrée, laquelle était blanche et bleue. De fait, on se mit à l'ouvrage et ils furent faits, taillés et cousus selon la mode qui alors avait cours.
Grâce aux archives anciennes qui sont en la chambre des comptes à Montsoreau, je sais qu'il fut vêtu de la façon suivante. Pour sa chemise furent levées 900 aunes de toile de Châtellerault et 200 pour les goussets en forme de carreau que l'on mit sous les aisselles. Et elle n'était point froncée, car la fronce des chemises n'a été inventée que depuis que les lingères, lorsque la pointe de leur aiguille était rompue, ont commencé à besogner du cul.
Pour son pourpoint furent levées 813 aunes de satin blanc et pour les aiguillettes 1509 pots et demi de chien. Alors tout le monde commença à attacher ses chausses au pourpoint, et non le pourpoint aux chausses, car la chose est contre nature, comme l'a amplement déclaré Holcam dans les exponibles de Maître Haute-Chaussade.
Pour ces chausses furent levées 1105 aunes et un tiers de laine blanche, et elles furent découpées en forme de colonnes striées et crénelées par derrière, afin de ne pas échauffer les reins. Et au-dedans des crevés, bouffées autant de damas bleus qu'il en fallait. Notez qu'il avait de très belles jambes, bien proportionnées au reste de sa stature.
Pour la braguette, furent levées 16 aunes un quart du même drap. Et sa forme fut celle d'un arc boutant, attaché bien plaisamment à deux belles boucles d'or que prenaient deux agrafes d'émail, avec pour chacune une grosse émeraude enchâssée, de la grosseur d'une belle orange. Car ainsi que le disent Orphée dans le livre des pierres et Pline dans le dernier livre de l'histoire naturelle, cette pierre a une vertu érective et roborative pour le membre viril. L'ouverture de la braguette était de la longueur d'une canne, découpée comme les chausses, avec le damas bleu flottant, comme il a été dit précédemment. Mais en voyant la belle broderie de fil d'or et les plaisants entrelacs d'orfèvrerie garnis de fins diamants, fins rubis, fines turquoises, fines émeraudes et grosses perles de Perse, vous l'auriez comparée à une belle corne d'abondance, telle que vous en voyez sur les monuments antiques et telle que Rhea en donna aux deux nymphes, Adrastée et Ida, les nourrices de Jupiter, toujours galantes, succulentes, perlante, toujours verdoyante, toujours florissante, toujours fructifiante, pleine de liqueurs, pleine de fleurs, pleine de fruits, pleine de tout délice. Je vous avoue par Dieu qu'il la faisait bon voir.
Mais je vous en exposerai bien davantage au livre que j'ai écrit « De la dignité des braguettes ». Je vous avertis toutefois d'une chose, c'est que si elle était bien longue et bien ample, elle était tout aussi bien garnie au-dedans et bien remplie, ne ressemblant en rien aux hypocrites braguettes qu'on voit à un tas de galants qui ne sont pleines que devant aux grandes dames du sexe féminin. Pour ses souliers furent levés 406 aunes de velours bleu tirant sur le pourpre, qui furent découpées mignonnement en lignes parallèles rassemblées en cylindres égaux. Pour leurs semelles furent employés 1100 peaux de vache brune fendues en queue de morue. Pour son manteau furent levées 1800 aunes de velours bleu d'une teinte violacée, brodées tout autour de belles petites vignes et de peintes en fil d'argent par le milieu, enchevêtrées de verges d'or avec force perles, montrant par là qu'il serait un bon caresseur de peintes en son temps. Sa ceinture fut faite de 300 aunes et demi de serge de soie, moitié blanche et moitié bleue, si je ne me suis pas trompé.
Son épée ne fut pas de Valence, ni son poignard de Saragosse, car son père haïssait tous ces hidalgos bois sans soif et maranisés comme diable. Mais il eut la belle épée de bois et le poignard de cuir bouilli, peint et doré comme chacun souhaiterait en avoir.
Sa bourse fut faite de la couille d'un éléphant que lui donna R. Pracontal, proconsul de Libye. Pour sa robe furent levées 9600 aunes, moins deux tiers de velours du même bleu que le précédent, tout sur filet d'or en ligne diagonale, de sorte que, vu sous un certain angle, il en ressortait une nuance indicible, comme celle que vous voyez au cou des tourterelles et qui réjouissait merveilleusement les yeux des spectateurs.
Pour son bonnet furent levées 302 aunes un quart de velours blanc. Et sa forme était large et ronde pour bien envelopper la tête, car son père disait que ses bonnets à la mauresque, faits comme une croûte de pâté, porteraient un jour malheur aux têtes tondues qui les portaient.
Pour plumer, il portait une belle et grande plume bleue prise à un pélican du pays de l'Hyrcanie sauvage, retombant bien mignonnement sur l'oreille droite. Pour médaillon, il avait sur une plaque d'or, pesant près de 17 kilos, une figure d'émail magnifiquement réalisée, sur laquelle était représenté un corps humain ayant deux têtes, l'une tournée vers l'autre, quatre bras, quatre pieds et deux culs. Platon, dans Le Banquet, dit que la nature humaine, à son commencement mythique, était telle. Et autour, il était écrit en lettres grecques
« La charité ne cherche pas son propre avantage ».
Pour porter au cou, il eut une chaîne d'or pesant plus de 6000 kilos, faite en forme de gros grains, entre lesquels étaient disposés de gros jaspes verts, gravés et taillés pour représenter des dragons, tout environnés de rayons et d'étincelles, comme en portait jadis le roi Nekepsos. Et elle lui descendait jusqu'à l'estomac, ce qui lui fut bénéfique toute sa vie, comme le savent les médecins grecs.
Pour ses gants, furent assemblés 16 peaux de lutin et 3 de loup-garou pour la bordure, matière choisie sur l'ordre des kabbalistes de Saint-Louan. Pour anneau, son père voulut qu'il en portât en signe de renouveau de la noblesse antique, il eut à l'index de sa main gauche une escarboucle grosse comme un œuf d'autruche, magnifiquement enchâssée dans de l'or très pur.
À l'annulaire de la même main, il eut un anneau fait des 4 métaux réunis de la plus merveilleuse façon qu'on eût jamais vue, sans que l'acier ne flétrisse l'or, sans que l'argent ne ternisse le cuivre. Le tout fut fait par le capitaine Chapuis et Alcofribas en bon artisan. À l'annulaire de la main droite, il eut un anneau torsadé en spirale, auquel était enchâssé un rubis parfait, un diamant en pointe et une émeraude de Fison, d'un prix inestimable. Car Hans Carvel, grand lapidaire du roi de Mélinde, estimait leur valeur à 69 894 018 moutons à la grande laine, montant confirmé par les fugueurs d'Augsbourg. Le passage qu'on vient d'entendre maintenant me fait penser à des Gilles de Binche. Pour ceux qui connaissent la Belgique, moi j'étais frontalier quand j'étais enfant, j'habitais à la Meuse, donc j'étais à côté de la Belgique. Et il y avait ces espèces de grands personnages qu'on appelle les Gilles de Binche, qui sont des personnages qu'on déguise, à qui on met des coiffes incroyables, etc. Et quand j'ai lu la première fois Gargantua, je devais être en 5e ou en 4e, j'ai eu la sensation de voir ce que j'avais pu voir en Belgique avec ces espèces de bons hommes incroyables qui sont liés au carnaval, à la fête et aussi à la beuverie des adultes à ce moment-là. Pour moi, enfant, c'était complètement dingue. J'ai eu la sensation de revivre par Gargantua les carnavals, que ce soit de Dunkerque ou de Belgique avec les Gilles de Binche.
Encore.
Les admirations littéraires, Laurence Tucker, sur France Inter.
Alors, dans le dernier chapitre, il y a vraiment l'apothéose pour moi de l'écriture de Rabelais avec la façon dont il parle de la scatologie. C'est un humour qui est plutôt lié à l'enfance, mais moi qui me fait toujours beaucoup rire. Une petite anecdote que je raconte, c'est j'ai eu la chance de travailler avec un des plus grands metteurs en scène qui s'appelait Peter Stein dans une pièce qui s'appelait Le Prix Martin à l'Odéon avec Jacques Weber. Et je faisais un personnage, Agénor Montgomier, qui avait toujours mal au ventre. Et je suis venu en répétition un jour avec ce metteur en scène très sérieux, que je pensais très sérieux, avec deux machines à proutes que j'avais achetées en tournée au Canada. Et je les ai mises dans mon habit. Et je les ai faites fonctionner pendant la scène. Et Peter Stein ne comprenait pas d'où venaient les bruits de prout, Jacques Weber non plus. Et tout le monde a commencé à rire en pensant que c'était vraiment moi qui pétais. Comme quoi, même dans des spectacles qui se veulent très sérieux, quelquefois, ce rire libérateur, scatologique, il est parfois salvateur. Alors on va vers le chapitre 13.
Comment Grand Gousier découvrit l'esprit merveilleux de Gargantua grâce à l'invention d'un torche-cul.
Vers la fin de sa cinquième année, alors que Grand Gousier revenait d'une victoire contre les Canariens, il retrouva son fils Gargantua. Cela le réjouit autant qu'un tel père pouvait l'être en voyant comme sien un tel enfant. En le baisant et l'embrassant, il l'interrogeait de diverses petites questions puériles, et il but abondamment avec lui et ses gouvernantes, à qui il tint à demander scrupuleusement, entre autres choses, si elle l'avait tenu bien nette et propre. À cela, Gargantua répondit qu'il avait pris ses dispositions pour qu'en tout le pays, aucun garçon ne fût plus propre que lui.
« Comment cela ?» dit Grand Gousier.
« J'ai, répondit Gargantua, à la suite de longues et méticuleuses expériences, inventé un moyen de me torcher le cul le plus seigneurial, le plus excellent, le plus efficace qui jamais ne fut vu. »«
Lequel ?» dit Grand Gousier.
« C'est ce que je vais vous raconter à présent, dit Gargantua. Je me torchais une fois du cache-nez de velours d'une demoiselle, et je le trouvais bon car la mollesse de la soie me causait au fondement une volupté bien grande. » Une autre fois, d'une de leurs coiffes, il en fut de même. Une autre fois, d'un cache-col. Une autre fois, d'oreillettes de satin cramoisi. Mais la dorure d'un tas de perles de merde qui y étaient m'écorchèrent tout le derrière. Que le feu Saint-Antoine brûle le boyau du cul de l'orfèvre qui les fit et la demoiselle qui les portait. Ce mal me passa quand je me torchais d'un bonnet de page bien garni de plumes à la Suisse. Puis, fiantant derrière un buisson, je trouvai un jeune chat. De lui, je me torchais, mais ses griffes m'ulcérèrent tout le périnée. De cela, je me guéris dès le lendemain en me torchant des gants de ma mère bien parfumés du parfum de la fente. Puis, je me torchais de sauge, de fenouil, d'aneth, de marjolaine, de rose, de feuilles de courge, de choux, de bête, de pampre, de guimauve, de bouillon blanc, qui met l'écarlate au cul, de laitue et de feuilles d'épinards. Tout cela me fit une bien belle jambe. Et encore de mercurial, de persicaire, d'ortie, de consoude, mais j'en eus une dysenterie de lombard. Ce dont je fus guéri en me torchant de ma braguette. Puis je me torchais au drap du lit, à la couverture, au rideau, d'un coussin, d'un tapis de jeu, d'un torchon, d'une serviette, d'un mouchoir, d'un peignoir. En tout, je trouvais plus de plaisir que n'en ont les galeux quand on les frictionne.
« Certes, dit Grand Gousier, mais quel torche-cul trouves-tu meilleur ?»«
J'y viens, dit Gargantua, et bientôt vous en saurez le fin mot. Je me torchais de foin, de paille, d'étoupe, de bourre, de laine, de papier, mais toujours laisse aux couillons bouloches qui sont cul sales de papier torche. »
« Quoi ? Dit Grand Gousier, mon petit couillon, as-tu bu assez pour être ivre, vu que tu rimes déjà ?»
« Oui, da, mon roi, répondit Gargantua, je rime tant et plus, et en rimant souvent m'en rime. Écoutez ce que disent aux fienteurs les murs de notre latrine. Chiard, foirard, pétard, brenou, ton lard, qui part, se sépare, sur nous, sanguinou, merdou, chiassou, le feu Saint-Antoine sera ton dard, si tout, tes trous, partout, tu ne te torches avant ton départ. » En voulez-vous davantage ?
« Oui, da, répondit Grand Gousier. »
Et voici donc, dit Gargantua. Rondeau, en chiant l'autre fois senti, le cad au cas mon cul je dois, l'odeur fut autre que je ne crois, j'en fus entier en puanti, Oh, si quelqu'un eût consenti à mener celle que j'attendais, en chiant. Alors osez dire maintenant que je n'y connais rien. Par la mère de, je n'ai jamais composé ces vers, mais les entendant réciter, par la grande dame que vous voyez ici, je les ai retenus en la gypsière de ma mémoire.
Retournons, dit Grand Gousier, à notre propos.
Lequel, dit Gargantua, chier ?
Non, dit Grand Gousier, mais torcher le cul.
Mais, dit Gargantua, voulez-vous me payer un tonneau de vin breton si je vous laisse bouche bée sur ce propos ?
Oui, vraiment, dit Grand Gousier.
Je me torchais ensuite, dit Gargantua, d'un couvre-chef, d'un oreiller, d'une pantoufle, d'une gypsière, d'un panier, mais oh, quel déplaisant torche-cul, puis d'un chapeau. Et notez que parmi les chapeaux, les uns sont ras, d'autres poilus, d'autres de velours, d'autres de taffetas, d'autres encore de satin. Le meilleur de tous est celui qui est fait de poils, car il offre une très bonne absorption de la matière fécale. Puis je me torchais d'une poule, d'un coq, d'un poulet, de la peau d'un veau, d'un lièvre, d'un pigeon, d'un cormoran, d'un sac d'avocat, d'une capuche, d'une coiffe, d'un leurre de cuir. Mais, pour conclure, je dis et maintiens qu'il n'y a rien en matière de torche-cul, rien de tel qu'un oison bien dufteux, pourvu qu'on lui tienne la tête entre les jambes, et croyez-m'en sur mon honneur. Car vous sentez au trou du cul une volupté mirifique, tant par la douceur du dit duvet que par la chaleur tempérée de l'oison, laquelle facilement se communique aux boyaux du cul et autres intestins jusqu'à parvenir à la région du cœur et du cerveau. Et ne pensez pas que la béatitude des héros et demi-dieux qui vivent aux Champs-Élysées viennent de leur asphodèle, de leur ambroisie ou de leur nectar, comme le disent les vieilles par ici. Elle vient, selon mon opinion, de ce qu'il se torche le cul d'un oison. Et telle est l'opinion de Maître Jean d'Écosse. Voilà, il faudrait des heures pour lire tout. C'est comme Proust. Rabelais, c'est très très long. Il y a aussi le Carlivre, il y a aussi Pantagruel. Il y a d'autres chapitres où il y a la découverte des farces et des jeux. Il y a le frère Jean des Entomeurs, il y a l'abbaye de Thélème. Donc, je vous conseille tout simplement d'acheter le livre si vous ne l'avez pas et de continuer chez vous la lecture. Cette émission a été préparée par Perrine Malinge.
Prise de son Pauline Laverdure.
Réalisation Stéphane Ronxin
et Maria Pasquet.
La semaine prochaine, nous lirons Louis Aragon et sa poésie.